Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Comment le lisez-vous ? Ou le dites-vous ? À basse, moyenne ou haute voix ? Vivement et d'un ton absolu ? Appuyez un mot ou lui donner plus de nerfs et d'éclat. Ah, l'alexandrin. Pas de mélopée. L'inflexion s'effacerait et le sens avec elle. Surtout ne pas déclamer. Les chemins de la connaissance, question autour de l'alexandrin, le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur, par Françoise Lebrun. Après les deux premières émissions de la série, Raison d'un succès, puis Dire l'alexandrin, voici une leçon de diction avec Christian Rist.
Commentaire d'un spectateur du XVIIIe siècle. Dans les pièces en vers, il se trouve à peine un acteur capable de les dire et qui sache seulement y joindre le régime avec le verbe.
Haine à tous ces faux systèmes, la vérité se trouve au milieu des extrêmes. Les sentiments du cœur en cadence exprimés et les alexandrins en prose transformés excès qu'au vrai talent jamais l'art ne conseille choquent également le bon sens et l'oreille. Et pourquoi donc, bon Dieu, s'embarrasser l'esprit de ces préceptes creux dont la raison sourit ? Des vers que, pour la scène, enfanta le génie, gardez-vous d'altérer la savante harmonie. Mais un récitatif monotone, ennuyeux, est-il donc pour l'oreille un bruit harmonieux ? Plaignons ceux qui, d'un cœur tristement héroïque, affrontent sans pâlir cette étrange musique, ces cadençantes voix dans leur lyrique ardeur, fuyant le naturel sans trouver la grandeur. Ne privez pas nos vers de leur aspect natal. Antique et lourd fardeau, la cadence leur pèse. Donnez l'accent français à la langue française. Parlez avec noblesse. Et sans être chanté, le vers apparaîtra dans toute sa beauté. Étrangement, il y a très peu... y compris enfin, dans les textes que je connais, comme le Dante, enfin, on parle très peu des problèmes de liaison, de compte des pieds. Il ne faut pas dérober ni la rime ni la mesure, on dit. Hein, mais ce n'est pas tellement plus précis que ça. Le problème des liaisons est très peu traité, alors qu'il me paraît préoccupant aujourd'hui. Et le problème, évidemment, de la diérèse, enfin, d'arriver quand même à trouver son nombre, de compter les sons dans le vers. Hein. Mm. Ça, ils insistent très peu là-dessus. Ça devait être une espèce de lieu commun, à mon avis. Enfin, ça ne posait pas problème, semble-t-il. Et d'ailleurs, quand on entend les enregistrements anciens, enfin, du début du siècle, les acteurs élident d'une façon qui me paraît insupportable aujourd'hui. Ça me paraît insupportable aujourd'hui parce que je crois qu'aujourd'hui, si on élide tant que ça, l'idée même du conte dans le vers, enfin d'un ombrage des sons, disparaît. Et je crois que des oreilles contemporaines, en tout cas dans les dernières générations, ne sont capables d'entendre un vers que si il est effectivement prononcé, ce qui, je crois, n'était pas le cas... à cause de la culture qui était autre et qui était beaucoup plus fondée sur quand même la rhétorique classique et des maximes en vers, etc. Donc, dans le temps, je crois que le conte du vers se faisait un petit peu tout seul. C'est pour ça que, effectivement, quand on entend Julia Barthet dire « Je ne te vante point cette faible victoire, Titus » et « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hein, », je ne te vante point. Je ne te vante point. Cette faible victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne te vante point cette faible victoire. Oui. Hein? Je ne te vante, parce que c'est ça le vers. Je ne te vante point cette faible victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein? Mm-hmm. Au lieu de je ne te vante point cette faible victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors ça, je crois que les oreilles ont changé pour ça. Mais ce qui est très intéressant dans le Samson, par exemple, c'est l'histoire de replacer toujours, ça ce n'est pas vraiment de la la diction, mais enfin, de revenir toujours au médium de la voix, c'est-à-dire à la position, finalement, où la voix est naturelle, sans la laisser monter ni descendre, c'est-à-dire, et finalement, qui est un ton presque abstrait, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors, vaincre la monotonie. Vaincre la monotonie, absolument, parce que l'alexandrin est un vers qui peut devenir d'une monotonie absolument affligeante. Voilà. Le problème de faire les incidentes. Quelquefois, une phrase incidemment glissée vient en deux fractions partager la pensée, et l'auditeur pourrait ne s'apercevoir point où le sens se divise, où le sens se rejoint. Un changement de voix le lui fera comprendre, exactement. c'est ça. Sur Talma, on a un témoignage sur la façon dont Talma, par exemple, jouait l'entrée en scène de Néron dans Britannicus, dans l'art théâtral, écrit donc au milieu du 19e siècle, Sanson, le professeur de Rachel, qui a mis en vers ce qu'il connaissait de la tradition théâtrale. Lui qui était un acteur qui avait vu quand même jouer des acteurs de l'Ancien Régime et qui avait vu jouer souvent Talma. Alors donc, l'entrée en scène de Talma, le fils d'Agrippine, sous les traits de Talma, quand le fils d'Agrippine, pour secouer un joug dont son cœur était là, ordonnait que de Rome on exile la Pallas, sa parole courait impétueuse et brève. Burrus obéissant à son superbe élève, Narcisse retenu par un mot caressant, les lecteurs renvoyés par un geste puissant, devant un tel tableau, la terreur devait naître. L'avenir de Néron commençait à paraître, et là, description précise de son ton de voix, les accents d'un courroux frappant de vérité nous étonnaient surtout par leur rapidité. Avec un art exempt de recherche et d'emphase, quelques mots détachés du reste de la phrase se dressaient, plus fougueux, plus fiers, plus menaçants, et sans la ralentir, en complétaient le sens. Il avait un débit serré, très net, comme ça, et puis tout d'un coup, il faisait sortir quelques mots, hein. Qu'est-ce que ça pouvait être? N'en doutez point, Burrus, malgré ses insuccès, c'est ma mère, et je veux ignorer son caprice, mais je prétends plus ignorer ni souffrir ce ministre insolent qui les ose nourrir. Pallas de ses conseils empoisonne ma mère. Il séduit chaque jour Britannicus, mon frère. Il l'écoute tout seul. Et qui suivrait leur pas, les trouverait peut-être assemblés chez Pallas. C'en est trop.
Au fur et à mesure de cette tentative de définition, j'en sais de moins en moins, c'est-à-dire j'ai de moins en moins de certitude. Et ce que j'apprends enfin un petit peu de parcours, c'est finalement qu'il n'y a pas d'affirmation nette à donner, une fois les bases posées.
Mais quand vous dites liberté, si on reprend notre exemple des vers de Phèdre, enfin, cette espèce d'échelle qui fait qu'on dirait que dans Phèdre, par exemple, il y a des vers qui sont une matière sans beauté propre, enfin, qui ne doivent pas être... qui sont une sorte de déjection, de fonctionnalité pure, et d'autres qui sont de l'ordre du lyrisme. Le problème, c'est le critère de discernement, en fait. C'est-à-dire que ça, et ça, c'est un... Qu'est-ce que vous voulez? C'est un art. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire...
Je la vois.
Oui. Alors, on peut quand même un petit peu le tracer extérieurement, et c'est ce que fait, par exemple... C'est ce que fait la Rive dans son cours de déclamation, ça c'est assez intéressant, au début du 19e, donc il fait, je ne sais pas s'il y a cette scène de Phèdre, enfin bon, là je tombe sur le début de Néron, il décrit les rôles avec les tons de voix qu'il faut pour chaque vers, alors... Néron, vivement et d'un ton absolu. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Bon, vivement, c'est assez clair, mais d'un ton absolu, n'en doutez point, Burrus, malgré ses injustices, changement d'intonation. C'est ma mère, et je veux ignorer ses caprices. Relevez le ton. Mais je ne prétends plus ignorer ni souffrir le ministre insolent, et c'est souligné insolent, hein, qui les ose nourrir. Reprendre le vers d'un ton moins haut. Pallas de ses conseils empoisonne ma mère. Il séduit chaque jour Britannicus, mon frère. Il l'écoute tout seul. Il y a marqué lui seul, mais c'est tout seul. Changer d'intonation. Et qui suivrait leur pas les trouverait peut-être assemblés chez Pallas. Le ton de l'humeur. C'en est trop. De tous deux, il faut que je l'écarte d'un ton imposant. pour la dernière fois qu'il s'éloigne, qu'il parte. Le ton impératif, nuance entre le ton imposant et le ton impératif est assez difficile à définir, mais enfin, je le veux, je l'ordonne, et que la fin du jour ne le retrouve pas dans Rome ou dans ma cour. Allez, cet ordre importe au salut de l'Empire. Changement d'intonation et le ton du commandement au dernier hémistiche. Vous, Narcisse, approchez et vous, qu'on se retire.
Il faudrait que je retrouve ça toujours dans Samson, c'est cette histoire du mot de valeur. Et donc, il faut mettre en valeur ce qui doit être mis en valeur, il faut découper, mais tout ça pris dans une vitesse, en fait.
Voilà. Alors d'abord, il y a sur le mot de valeur, enfin, oui, ce dont on parlait, hein, ça, un paragraphe qui commence comme ça. Ayez un talent simple, une franche manière. C'est toujours ces mots qu'on retrouve dans la simplicité, la franchise. Débrouillez-vous avec ça. Hein. Mais ça, c'est par contre plus technique. Et sachez placer l'ombre auprès de la lumière. Tout doit avoir un sens, mais le but est manqué lorsque du même accent chaque mot est marqué. Quelquefois, la pensée est dans une parole. Des mots environnants que votre voix l'isole, et qu'au mot où le sens est surtout enfermé, plus de nerfs et d'éclat par vous soient imprimés qu'au-dessus de la phrase, il brille et l'illumine. Il ne dit pas, par exemple, qu'on doit appuyer sur ce mot. On doit lui donner plus de nerfs et d'éclat. Et il doit, au-dessus de la phrase, briller et l'illuminer, comme Talma faisait quelques mots détachés du reste de la phrase, hein, avec un art exempt de recherche et d'emphase. Ça, c'est très important. Quelques mots détachés du reste de la phrase se dressaient, plus fougueux, plus fiers, plus menaçants, et sans la ralentir, en complétait le sens. Hein. Mmh. Voilà. Et puis, alors, sur la querelle, le vers doit-il être déclamé ou pas, hein? On qu'on trouve déjà dans Dante. Il n'est pas de question, dit Dante, qui ait peut-être été plus débattu dans l'histoire du théâtre français, etc. Voilà. C'est, alors, Samson fait la synthèse du problème de cette façon-là. Trop souvent, à l'oreille, un antique travers impose la mesure et le rythme du vers. Et des alexandrins sur la scène tragique, on entend retentir la cadence emphatique. Le ciel en soit loué, nous dit un esprit faux, qui toujours en beauté érige les défauts. Que servent la césure et la rime et le nombre si nous ne devons pas même en retrouver l'ombre, et si sur le théâtre un débit terne et plat de ce noble travail nous dérobe l'éclat. Ainsi, des faux talents qui parlent en cadence, plus d'un faux connaisseur embrasse la défense. À l'uniforme bruit des verbes psalmodiés, se partageant toujours en deux lourdes moitiés, une oreille barbare aisément s'accoutume, comme au bruit des marteaux retombant sur l'enclume. Pour qui dans cette route une fois s'est jeté, adieu le naturel et la variété. Sous une mélopée insipide, éternelle, l'inflexion s'efface, et le sens avec elle. Baron fut un modèle en des genres divers, ce grand acteur jamais n'a cadencé les vers, et le couvreur, trop tôt ravi à Melpomène, a parlé comme lui sur la tragique scène. L'élève de Molière a-t-il jamais pensé qu'Achille pût avoir un courroux cadencé, que le Cid en chantant dut venger une injure, ou le second César pardonner en mesure? En lui, la grandeur simple eut un fidèle amant, et dans un rôle noble, il parlait noblement. C'est dans la vérité qu'il puisait l'art de dire. Déclamer est un mot qu'il eût voulu proscrire, et ses lèvres, dit-on, rarement prononçaient ce mot dont sa raison et son goût s'offensaient.
Et alors, je repense toujours à cette réflexion de Barthes du départ, où il trouve que, par exemple, c'était la représentation de Phèdre avec Alain Cuny, et il trouve que Alain Cuny est tout à fait le héros, enfin, dans la mesure où il ne détaille pas le vers, et que là, Barthes analyse le détail du vers un petit peu comme ce que fait la Rive, avec un mot qui sort insolent souligné, comme une interprétation bourgeoise. Et que Alain Cuny, qui donne des masses de vers et qui semble progresser par paliers, correspondrait davantage au côté relation de l'homme et de Dieu qui serait dans Racine et non pas drame bourgeois que lui voit arriver chez Racine. Donc tout ça, finalement, est sujet à un air du temps, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que un moment d'humanité va réagir à un certain aspect aussi, et donc l'exprimer d'une certaine manière.
Oui, donc on parlait de l'air du temps. C'est évident que tout ça est sujet à des fluctuations, et en particulier aux fluctuations de ce que l'auditoire peut percevoir, en fait, ou aime percevoir. C'est-à-dire que, vous savez, Glenn Gould disait « Donnez-moi des auditeurs anciens et je jouerai sur des instruments anciens ». Donc, nous adressons à un auditoire et il faut trouver la façon de rentrer en contact avec cet auditoire. Et selon, effectivement, la sensibilité de cet auditoire, la façon sera tout à fait différente. Maintenant, quant à l'équilibre, si vous voulez, du détail et de la masse, c'est-à-dire faut-il jouer par masse ou faut-il jouer par détail, je dirais ni l'un ni l'autre haine à tous les faux systèmes, en citant un alexandrin de Samson de nouveau. Et j'inventerais volontiers un faux proverbe oriental, pour dire « il ne faut pas descendre de cheval pour ramasser la fleur ». C'est-à-dire, le discours doit aller, c'est le cheval qui va, la phrase va, mais évidemment les fleurs doivent être ramassées par le cavalier pourtant. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a que le cheval qui va, on n'a pas les choses. Si le cavalier descend de cheval, ramasse la fleur, c'est absolument pénible. Il faut qu'il galope, et en galopant, il ramasse une fleur à gauche, une fleur à droite, une fleur à gauche, une fleur à droite, comme ces cavaliers, vous voyez, ces cavaliers qui passent et qui ramassent dans ce mouvement-là. C'est comme un slalom aussi, si vous voulez.
Pour conclure, je voulais vous demander quel était l'alexandrin qui vous viendrait à l'esprit.
C'est vraiment une question, comment dire, il m'est venu un alexandrin comme ça, qui est un alexandrin de Phèdre, qui est le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Hein. C'est un alexandrin qui est fait entièrement de monosyllabes, en fait. Hein. C'est Hippolyte qui dit « le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur ». Ils sont tous, donc c'est presque un alexandrin qui aurait presque 12 accents, en fait. Le jour, oui, le jour n'est pas plus pur que le... Voilà, ça, c'est un alexandrin qui me vient à la tête. Il est exceptionnel, d'une certaine façon, hein, puisque il est justement fait comme ça, de monosyllabes. Hey, n'est que pour qui ne veut que ce qui doit leur plaire. Ça, c'est dans... Ça n'est pas complet, mais c'est dans Sophonisme, un vers de Corneille. Mais voilà un vers. Alors, le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Voilà un vers qui est une phrase. Il est fait de monosyllabes. Il se trouve que j'en ai un autre fait de monosyllabes qui me revient, sauf que ça ne veut rien dire. C'est un vers de Corneille. Comme souvent, les alexandrins ne veulent rien dire, puisqu'ils sont des bouts de phrases qui sont sortis de leur contexte. Alors, mais celui de Corneille, c'est « n'est que pour qui ne veut que ce qui doit leur plaire ». Ça parle de... Je ne me souviens même plus du début de la phrase. Hein. Et puis, on pourrait dire, par exemple, le premier vers de La Veuve, de Corneille, qui me paraît un alexandrin extrêmement bon, et qui est « Dis ce que tu voudras, chacun a sa méthode ».
C'était les chemins de la connaissance, question autour de l'alexandrin. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur, par Françoise Lebrun. Une leçon de diction avec Christian Rist. Première diffusion sur France Culture le 22 avril 1992. Tout de suite, le quatrième volet de la série, le plaisir de lire, avec Jean-Marie Villégier.
Les fidèles à l'alexandrin, notre hexamètre, dessertent intérieurement ce mécanisme rigide et puéril de sa mesure. L'oreille, affranchie d'un compteur factice, connaît une jouissance à discerner, seule, toutes les combinaisons possibles entre eux de 12 timbres, Mallarmé. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Rimbaud.
Nous devons être, en tant que comédiens, aujourd'hui, ceux qui donnent l'exemple d'un plaisir à parler. Plaisir qui doit être contagieux. Moi, je n'ai absolument rien contre le rock ou les chanteurs à la mode, qui, même français, chantent parfois en anglais. J'ai rien contre parce que, pourquoi ? Parce que je vois bien que dans ce passage à la langue anglaise, lorsqu'il s'agit de prendre du plaisir, il y a justement passage au plaisir de la langue. Mais je trouve grave et désolant que pour prendre du plaisir à la langue, nous soyons obligés souvent de passer à la langue anglaise. Notre langue peut donner des plaisirs similaires, au moins aussi intenses, différents de nature, l'un n'excluant pas l'autre. Mais nous en sommes à avoir perdu ça, à ne plus goûter physiquement les sonorités, les accentuations, les possibilités sonores de notre langue qui est en train de devenir une langue sans jouissance. Le vers, c'est aussi ça, c'est pas seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est un rythme. C'est un rythme extraordinairement varié. Et ce sont des couleurs extraordinairement variées. Il est très net qu'il y ait en ce moment, je crois, et pas seulement dans nos têtes, un besoin réel de ce type-là. Et moi, j'ajouterais toujours, en revenant à ce théâtre que j'aime, c'est que, je dirais, grâce à la forme de l'alexandrin ou à toute autre forme versifiée d'ailleurs, mais l'alexandrin c'est notre théâtre en vers et il est immense, beaucoup plus large, beaucoup plus divers dans ses genres qu'on ne le pense encore aujourd'hui. Ce théâtre-là, c'est un théâtre où l'espace même de la scène devient l'espace de la langue et de la pensée. D'une tragédie française ou d'un Molière tout aussi bien ou d'un Quinault, c'est pas le salon salle à manger cuisine, c'est la tête, et ça c'est formidable. On est tout près du nu de la pensée, comme certains drapés transparents, légers, mouillés peuvent dans certaines sculptures de la grande tradition classique laisser voir toute l'anatomie et tout le détail des tensions et des relâchements musculaires.
Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature et d'une ardente amour, sentir mon cœur atteint au plus beau des portraits où lui-même il s'est peint.
D'abord, mais parler en alexandrin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire seulement se plier à cette forme qui consiste à mettre 12 syllabes les unes après les autres et à tant bien que mal terminer sur ce bijou d'un sou qu'on appelle la rime. Ça veut surtout dire, pour le personnage et pour l'acteur, vivre dans la tension entre une pensée et une forme. Ça veut dire, selon moi donc, la tension entre une musique et un sens. La tension entre un cadre métrique et une phrase, une pensée qui se construit dans une phrase élaborée, dont le rapport est à la fois amoureux et conflictuel avec ce cadre métrique. Et c'est dans cette tension entre le cadre métrique et la pensée que le personnage et l'acteur sont amenés à penser plus vite que nature. C'est-à-dire que les moments où le personnage est en scène et parle ne sont pas des moments de vie, ils sont des moments de vie extrême. Non pas extrême simplement par la violence des passions qui se déchaînent, mais extrême par d'un point de vue quasi sportif, par la concentration de toutes les facultés de pensée et toutes les facultés physiques de tension et de vigilance qui peuvent, en un moment donné, se mettre en branle chez un homme. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la danse, classique ou moderne d'ailleurs, peu importe, mais un personnage en scène dans Corneille, dans Racine, ou dans tout ce théâtre classique, est lui-même en tant que personnage mis à l'épreuve d'une forme très haute, et l'acteur est lui-même aussi soumis à cette épreuve-là, qui est, comme disait Jouvet d'ailleurs, l'épreuve de témoigner à la fois d'une forme et d'une pensée, bien plus que de se supposer identifié au personnage qu'on joue, mais témoigner aussi véridiquement que possible, c'est-à-dire en rendant compte de la multiplicité des tours et des tours, un peu comme on peut observer chez un danseur ou une grande danseuse, la capacité à témoigner non seulement d'une virtuosité ou d'une puissance, mais surtout de la capacité à ciseler au fait même de l'effort, d'un effort qui peut paraître herculéen, conserver les capacités d'un ciseleur.
Aimez encore, aimez toujours, aimez quand même, aimez-vous bien les uns les autres. Il faut sacrifier sa vie à son amour. Moi, je vous montrerai comment on aime un jour. Amour, n'ayez que de l'amour dans la poitrine, aimez-vous.
Je parlais d'art de vivre aussi parce que je trouvais que on a été assez submergé par le sens ces dernières années et on a oublié beaucoup le son, la musique de la langue. C'est-à-dire que souvent on a pu voir des témoignages, je dirais, pour les pièces de théâtre, je les appellerais des témoignages d'une époque où le langage était extrêmement réduit, où il s'agissait d'un corps qui était lui-même défait. Enfin, Sarah Bernhardt a amené le corps défaillant. Enfin, c'est elle qui nous a fait entrer avec 1900 dans cette chute du corps, cette déliquescence, comme ça.
Mais la voix était loin d'être défaillante.
Oh, combien combien cette voix était tenue.
Tonique.
Et combien elle pouvait
vibrante.
En faire... Oui, le souffle était là aussi. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir les six alexandrins à la suite dans le même mouvement. Je me suis entraînée à la maison, c'est difficile d'arriver à refaire « Oui, prince, je l'en dis » jusque... bon. Donc effectivement, elle a amené cette... pour moi, c'est ce que je ressens, elle a amené cette coupure entre la tradition antérieure qui était quand même Rachel, on ne raconte pas qu'elle tombait. Hein. Elle se tenait, Mademoiselle Mars se tenait, tous ces gens étaient vraiment des corps très solides en scène.
C'est le style nouille qui...
Qui est arrivé, oui, c'est vrai, c'est la courbe. C'est la courbe qui nous est arrivée. Et donc c'est pour ça que ça me paraît très important de revenir pour ces... J'étais frappée aussi pour les jeunes gens, qu'ils soient comédiens ou non, en tout cas, du besoin de retrouver le plaisir de la langue, tout simplement le plaisir de pouvoir déplacer un adjectif, de ne pas avoir simplement verbe, sujet, complément d'un coup, et comme ça se passe très souvent, extrêmement réduit, mais de faire l'irréparable outrage, et on déplace un peu, et je trouve que c'est un instrument ludique.
Tout à fait. Ludique, et comme vous disiez aussi, corporel, car c'est l'une des choses qui est si merveilleuse dans un théâtre en vers, c'est qu'il est prodigieusement physique. C'est que ce plaisir de la pensée, ce plaisir de l'attention aux détails du texte devient un plaisir corporel intégral qui implique, pour la profération, l'ensemble du corps. J'en suis maintenant venu à penser que tout vraiment dans une mise en scène de Racine, par exemple, doit découler de la profération. Le mouvement physique doit découler de la profération, non pas de la déclamation, encore que le mot pour moi soit extrêmement positif, mais des circonvolutions et de la musique, et de la pensée, et de la mise en forme de cette pensée dans une musique en tant que travail intégral du corps.
Phèdre, Racine, par Madame Sarah Bernhardt. Oui, prince, je l'enduis, je brûle pour que je l'aime. Non, point tel que dans les enfers, voilà, adorateur de mille objets divers, qui va du dieu des morts déshonorer la couche, mes fidèles, mes fiers, et même ces charmants, charmants jeunes, prenant tous les cœurs après toi, tel qu'on dépeint nos dieux, tel que je vous vois.
Est-ce que vous iriez, parce que bon, on raconte effectivement que la Champmêlée, quand elle répétait, était entendue à
de l'autre côté.
Voilà, exactement. Ce qui signifie quand même une puissance vocale extraordinaire, enfin, il me semble. Et puis, on parle beaucoup, c'est Philippe Bossan, par exemple, qui a fait un travail avec des chanteurs et qui a fait dire quelques vers de Bérénice par ce chanteur, en suivant la technique du chanteur. Et j'ai quand même une réticence un peu là-dessus. C'est-à-dire que c'est très séduisant, je dirais, sur une douzaine de vers. Et je me demandais sur 1500 vers, ce qu'amenait. C'était un peu... Enfin, mais peut-être je me trompe. J'ai eu le sentiment que c'était reproduire, non pas le mouvement interne, mais la forme extérieure en la doublant. Et que ça risquait de faire perdre beaucoup à ce qui est quand même extraordinaire dans ce théâtre-là, que ce soit Corneille, Racine, même Molière, je dirais, parce que le rapport n'est pas le même à la langue ni au sentiment, hein, ça n'est pas la même chose. Mais ce sont quand même chaque fois des prises de position vitales. Corneille et Racine, c'est vraiment l'existence qui est en jeu par la parole. Or, si cette parole, qui est déjà très tenue par la forme de l'alexandrin, est encore doublée par une forme pseudo-musical extérieur, je dirais, non plus de la musique de la langue, j'ai un doute.
Je suis absolument d'accord avec ce que vous dites, et il faut s'entendre sur le mot musique. La musique, c'est la musique de la langue, et je dirais c'est la musique de la pensée. C'est la musique de la langue en tant qu'elle aide à la pensée. Si l'on verse dans une pure forme musicale, d'abord on est, je crois, à l'opposé même de ce qu'a fait un Lully, qui n'était pas dans une pure forme musicale, avec Quino, et vraiment c'est important que ce soit un tandem qui soit à l'origine de notre tragédie lyrique, et non pas un seul homme. C'est important parce que c'est représentatif de cette tension dont je parlais là, de la tension entre l'enjeu de penser l'enjeu vital de chaque scène et sa mise en forme. Il me semble essentiel que le comédien se sache, lorsqu'il est dans ce théâtre, se sache sur un fil tendu avec un balancier en main, et que les deux boules qui se trouvent aux deux bouts du balancier soit strictement équilibré, et ceci à tout instant, ou plus exactement, non pas équilibré en équilibre, mais que le comédien avançant dans l'instant de la représentation, c'est là encore qu'on est près de la tauromachie, je veux dire, ça ne se règle pas une fois pour toutes, même si on fait un travail de détail forcené, dans l'instant même de la représentation, veille à ne verser ni du côté de la pure musique, ni du côté de la pure impulsion d'identification au personnage dans une méconnaissance de la forme. C'est cette tension-là qui est génératrice du théâtre tel que, je crois, c'est toute l'époque classique l'a entendu. C'est-à-dire, je reviens un peu à mon propos de tout à l'heure, c'est-à-dire non pas à un miroir de la vie, même s'ils emploient le mot miroir, ce n'est pas dans le sens où nous l'emploierions aujourd'hui. N'oublions pas que le quatrième mur est toujours ouvert et qu'il n'y a pas de quatrième mur dans ce théâtre. Mais à la construction en scène et dans l'instant même de la représentation, d'un moment de vie particulièrement intense et exemplaire. Ce théâtre-là est un théâtre modèle, et non pas un théâtre reflet. Je trouve que c'est tout à fait important de penser ça. Que le théâtre, bien sûr, peut-être, il a, dans certains de ses genres, dans certaines de ses applications, cette fonction du reflet de ce qu'est la vie. Mais il a une autre fonction. Il a une fonction de, comment dire, de définition de ce que devrait être la vie. Non pas pour être bien vécu, non pas une définition morale de ce qu'elle devrait être, mais une définition qui est de l'ordre de l'intensité de plaisir qui peut être pris à bien connaître dans ses multiples aspects contradictoires, les passions dont on est agité, les situations dans lesquelles on se trouve pris, et à les mettre au clair tout en les vivant.
Quel est le premier alexandrin qui vous passe par la tête?
Il m'en passerait deux par la tête. Disons, le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Et disons, voyons, Phèdre veut vous parler avant votre départ. Je veux dire, je pense ces deux exemples comme démonstration de ce qu'une tragédie de Racine, ça n'est vraiment pas un alignement de quelques 1600 ou 1800 alexandrins d'égal, je ne dirais pas valeur, mais d'égal portée ou surtout d'égal intention musicale. Le flirt avec la pure musique et le flirt avec la pure prose sont les deux extrêmes entre lesquels ils bougent constamment.
Ces troisième et quatrième volets de cette série ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 22 et 23 avril 1992. À suivre, l'Alexandrin à la Comédie-Française.